Amplifié, votre émission sur l'actualité.
Qui doit-il sélectionner de Valbuena ou Benzema?
Grande question.
Exactement. Et
ces messieurs le trouvaient à une époque d'un rafraîchissant type de classe, n'est-ce pas?
Peu précis comme description, me ferez-vous remarquer. Pour de la science, ça pose un peu problème.
Le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, prévoit pour son pire scénario une hausse des températures moyennes sur Terre de 4 à 6 degrés.
Non, pas Mein Kampf quand il y a déjà Le Pen, sans surgement de Mélenchon.
Avec au programme de la presse, des enquêtes, de la politique et de l'international. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir à vous pour ce 10e numéro du journal radiophonique amplifié. Un numéro à nouveau chamboulé aujourd'hui, à quelques jours des fêtes de Noël. J'ai repris mon sceptre de présentateur à Jérémy. Jérémy qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Rassurez-vous, il n'est pas enfermé quelque part. Vous le retrouverez bien l'an prochain, en 2016, dans l'émission. Pas de Quentin non plus aujourd'hui. Et nous pensons bien à eux, nous qui sommes en studio justement aujourd'hui. Et le numéro sera donc un petit peu plus court et exceptionnellement sans revue de presse. Je suis toutefois bien entouré puisque je suis avec Maxime et Samuel. Bonjour vous deux.
Salut. Bonjour Clément.
Alors, dans quelques instants, vous retrouverez l'enquête de Maxime. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Rebonjour, pardon.
Oui.
Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Tu nous emmènes...
Aujourd'hui, on va en Espagne.
On va en Espagne.
Pays de tous les dangers.
Pays de tous les dangers à l'approche des élections.
Et oui.
Et enfin Samuel. Alors comment vas-tu Samuel?
Eh ben, ça va très bien, merci.
Alors j'ai cru comprendre que tu nous révéleras tout à l'heure un énorme scandale.
Oui, mais qui peut aussi être interprété comme un non-scandale finalement, on va le voir.
Alors on va pas le révéler tout de suite,
non.
On le découvrira.
Suspense, ouais.
On le découvrira tout à l'heure, suspense jusqu'au bout. Quant à moi, je vous donnerai mon sentiment sur ces élections régionales, dont le second tour s'est tenu, vous le savez, le 13 décembre dernier, pour un résultat que l'on connaît. Et donc pas de revue de presse aujourd'hui, chers auditeurs, on écoute donc Maxime, tout de suite après un jingle.
Raconte-nous ce qui est arrivé, comment ça s'est passé pendant qu'on t'attendait.
Ce qui s'est passé, eh bien, c'est que je vais introduire une grande nouveauté pour cette émission. C'est que Transistor va faire le buzz, le hashtag buzz devrais-je dire, car nous allons parler à chaud du pauvre Mariano Rajoy qui hier soir, c'est-à-dire le mercredi 16 décembre 2015, alors qu'il s'offrait un bain de foule dans la ville de Galice qui a vu naître sa carrière politique, Pontevedra, s'est fait approcher par un jeune 17 ans, apparemment désireux de partager avec lui un selfie pour finalement lui décocher un violent crochet qui a fait vaciller le président sortant du gouvernement espagnol et voler en éclats ses lunettes. Résultat, le visage rougi, Mariano s'est montré aussi digne qu'il lui était encore possible de le paraître et n'a rien déclaré sauf un lapidaire « tout va bien ». Décidément, les bains de foule et les présidents ne font pas toujours si bon ménage. Et garder la tête haute dans ces situations-là, il faut bien le lui reconnaître, ça ne doit pas être simple. Alors, je pourrais vous dire que le jeune responsable, très fier de ses actes, était un supporter du club de foot local d'après Le Monde. Je pourrais même vous détailler les tréfonds de son compte Twitter, mais oh déception, c'est de l'Espagne en général que j'aimerais vous parler ce soir. Car pour la 12e fois depuis l'instauration de la démocratie, les habitants du pays des Toros vont être convoqués aux urnes le 20 décembre prochain, c'est-à-dire passé pour vous, afin cette fois-ci d'élire les 350 membres du Congrès des députés et 208 des 266 membres du Sénat, le reste étant nommé par les différentes communautés autonomes au prorata de leur population. L'Espagne est en effet une monarchie constitutionnelle, certes, sur laquelle règne Felipe VI depuis 2014, son papa a abdiqué pour cause de corruption un peu trop visible, mais doit prendre en compte les velléités régionalistes, voire nationalistes, de certaines des entités qui la composent, par exemple la Catalogne, ce qui ne facilite pas le jeu politique.
Et donc un jeu politique qui s'annonce assez compliqué.
Et oui, particulièrement troublé pour ces élections à l'issue incertaine. Monsieur Rajoy, le président du gouvernement sortant donc, en fonction depuis maintenant 4 ans, a en effet à son actif un bilan solide pour certains mais fort contesté par d'autres. Ex-président du Parti Populaire, le grand parti de la droite espagnole, soutenant les politiques d'austérité promues par le FMI, on peut dire qu'avec ses ministres, il s'est montré plutôt actif. Il avait pris à l'époque la succession d'un parti socialiste ouvrier, Partido Socialista Obrero Espagnol, je suis germaniste. Hein.
On excusera ton accent.
Assez exsangue comme celui-ci ne l'avait jamais été, largement plombé, donc, outre de troubles affaires, par ses difficultés à gérer la crise qui touchait le pays depuis 2008. Les mesures aussitôt appliquées n'ont pas tout de suite fait effet, mais petit à petit, l'oiseau a fait son nid et l'Espagne a repris une croissance économique tout à fait respectable, qui devrait flotter entre les 2 et 3% pour 2015, quand nous en aurons les résultats. Et
ça
les
ferait rêver certains gouvernants au nord des Pyrénées.
Tout à fait. Alors, évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Pour obtenir un tel résultat, Mariano a dû bigrement serrer la ceinture de ses concitoyens. Presque 9 milliards d'euros d'économies, un peu plus de 6 milliards de recettes supplémentaires. Tout cela signifiant, bien sûr, salaire des fonctionnaires gelés, pas de chance. Augmentation de la durée du travail dans les administrations, suppression d'aide au logement pour les jeunes, blocage du salaire minimum, augmentation de certains impôts, tout en prenant soin tout de même de revaloriser légèrement les retraites et de ne pas trop détruire les allocations chômage. Faut bien maintenir la paix sociale. Bref, un système un peu à la Angela, comme vous le voyez. L'ennui, c'est que généralement, quand on fait ça, tout le monde n'est pas d'accord. Le Parti populaire est toujours donné premier par les derniers sondages autorisés. Il y a un mais. On est fort loin des scores flirtant avec la majorité absolue de 2011.
Et donc tant mieux pour le Parti socialiste ouvrier. Vous m'excuserez de ne pas le prononcer en langue originale.
Eh bien, en fait, non, pas non plus. Car, bizarrement, les gens ont gardé mémoire du fiasco d'il y a 5 ans. Et même si la gauche traditionnelle a réduit son écart avec la droite, du coup, elle demeure à des niveaux d'intention de vote franchement inférieurs à ce qu'elle obtenait il y a 10 ans. Alors, si ni l'un ni l'autre n'ont la majorité, c'est qu'il y a de nouveaux arrivants. Et effectivement, il y a de nouveaux arrivants. À ma gauche, à ma toute gauche, j'ai nommé Podemos, le parti anticapitaliste et eurosceptique, pour brièvement, qui a pas mal fait parler de lui depuis sa création dans le sillage du mouvement des indignés en janvier 2014. Déjà 5 députés européens à son actif et 139 représentants régionaux, ils doivent être plus d'un millier à peu près. Ces élections sont un petit peu leur grand galop d'essai. À mon centre, j'ai nommé Ciudadanos, le parti des citoyens, un parti social libéral, le centre quoi, créé en 2006, qui gagne en audience. Alors le point commun de ces deux partis, eh bien, ce sont des outsiders. Et la politique espagnole est particulièrement touchée par des phénomènes qui vont peut-être vous rappeler quelque chose, à savoir un défaut de confiance croissant envers les gestionnaires politiques du pays. Mais donc nous avons vu récemment quel genre de résultats cela pouvait donner sur notre sol, mais le populisme d'extrême droite a moins d'audience en Espagne, et même si cette analyse est extrêmement rapide et simplifie beaucoup les choses, il n'est pas très étonnant de voir le plus petit parti se présentant comme une relève vertueuse et sérieuse d'acquérir de plus en plus de force dans ce pays. D'ailleurs, le débat télévisé du mardi 15 décembre en face-à-face entre Rajoy et Sanchez, donc son rival socialiste, un débat tout à fait bipartite, bien sûr, pas de voix au chapitre pour les partis montants, a donné des résultats assez houleux. Bon, Sanchez qui dit « Vous n'êtes pas une personne décente », réponse de Rajoy « Vous êtes misérable et vil ». Une vraie corrida politique, ça vend pas trop du rêve. L'ennui, c'est que la constitution espagnole se prête mal au jeu à quatre. C'est un jeu à deux qu'il faut pour gouverner, car le gouvernement doit être accepté par l'Assemblée, ce qui fait qu'il est largement préférable d'avoir plus de 50% des sièges, la majorité absolue, pour pouvoir en former un. Or, ce ne sera vraisemblablement ni le cas de la gauche, ni le cas de la droite, une première. Forcément, les partis en ascension leur prennent des voix. Or, tous deux, en lien avec cette volonté de ne pas se salir les mains, ont déclaré qu'ils refuseraient toute alliance, notamment, par exemple, Podemos au Parti socialiste. Bref, vous m'aurez compris, la constitution de 1978, donc après la chute de Franco, commence à montrer ses limites, et sans parti dominant pour en réviser les termes, le défi s'annonce plein d'écueils, sans même avoir à mentionner les vieilles aspirations nationalistes. Autant vous dire que la situation politique de notre voisin du Sud est une affaire à suivre.
Merci Maxime pour ton billet. Alors on passe maintenant à l'édito scientifique avec Léo qui vient de nous rejoindre en plateau, et pour un édito scientifique qui, pour une fois, n'est pas pessimiste.
Oui, pour une fois, je ne vais pas broyer du noir. C'est bientôt Noël, il faut être positif.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
They have finally found the Higgs boson. 2 millions de victimes de la grippe depuis le début des
épidémies. A major outbreak of Ebola. A death toll is rising in Nepal after a massive 7.8 magnitude earthquake struck the region.
Une trop grande consommation de viande aggrave les risques de développer un cancer.
Yes, science.
Donc on va parler des réacteurs à fusion nucléaire en cours de développement, bon, qui avancent lentement mais sûrement. Et donc la semaine dernière, nos voisins allemands ont réussi à démarrer un tel réacteur expérimental, ce qui constitue une jolie avancée au regard de la difficulté de la chose.
Mais alors Léo, on nous parle de réacteurs nucléaires à fission, à fusion, c'est quoi la différence ?
Instant physique, promis, je vais faire ça compréhensible. L'ensemble de la matière qui nous entoure est composé d'atomes, eux-mêmes constitués de particules encore plus petites. un noyau central composé de protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. La plupart des atomes qui nous entourent sont stables, mais certains peuvent se désagréger spontanément en perdant quelques-unes de ces particules, car soit ils en ont trop, ou alors pas assez, et de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. L'uranium-235, le carbone-14, le césium-137, ce sont ainsi des éléments radioactifs. C'est ce qui exploite le principe de la fission. C'est quand un gros atome radioactif instable est frappé par une petite particule et se désagrège en un plus petit atome en libérant beaucoup d'énergie et d'autres particules, notamment des neutrons. Ces neutrons vont aller frapper d'autres atomes du matériau et initier à nouveau des désagrégations, etc., etc. Le phénomène devient de plus en plus exponentiel, l'énergie devient astronomique et boum, vous venez de faire exploser une bombe A de type Hiroshima. C'est le même phénomène qui se passe dans une centrale nucléaire classique, mais avec ce qu'on appelle des barres de contrôle, qui sont enchâssées dans le combustible radioactif. Elles sont capables d'absorber les neutrons et donc d'empêcher l'emballement de la machine par rapport à une bombe atomique. Maintenant, la fusion, c'est l'inverse. Vous prenez deux petits atomes, vous donnez beaucoup d'énergie pour atteindre une température délirante, de l'ordre de 2-3 millions de degrés, et ces deux petits atomes fusionnent en un plus gros, en libérant encore plus d'énergie que celle que vous avez donnée avant. Là encore, la réaction s'auto-entretient tant que vous avez des choses à fusionner. C'est comme cela que le Soleil nous éclaire en fusionnant de l'hydrogène en hélium et que beaucoup d'éléments chimiques existants, comme le carbone, l'oxygène, ont été formés dans le cœur des supernovas et autres étoiles géantes de l'univers par combinaison d'atomes plus petits. On sait déjà faire de la fusion, mais de manière pas contrôlée. Ça s'appelle la bombe H. 1000 fois plus puissante que la bombe A, comme si elle suffisait pas déjà. C'est une réaction de fission classique qui fournit l'énergie nécessaire pour initier la fusion de l'hydrogène que contient la bombe et donc la faire exploser. L'objectif du réacteur à fusion, dont je parle, est donc de contrôler cette réaction pour pouvoir avoir de l'énergie à partir d'hydrogène, ce qui serait révolutionnaire.
Révolutionnaire à ce point ?
Oui, l'énergie produite par un réacteur à fusion serait gigantesque, capable d'alimenter 1000 fois plus de monde qu'un réacteur à fission classique. Autre avantage, plus de déchets radioactifs. Le seul rejet de ces centrales serait de l'hélium, gaz inerte, dont en plus nous commençons à manquer. Enfin, le combustible de l'hydrogène est très abondant sur Terre. On peut en extraire en séparant de l'eau en dihydrogène plus oxygène. Et c'est quasiment pas dangereux face à l'uranium. L'hydrogène peut juste exploser dans certaines conditions, mais en faisant gaffe, ça arrive jamais. Le gros souci, c'est que la réaction commence donc demande plusieurs millions de degrés pour commencer. Ce qui fait qu'actuellement, lancer le réacteur demande plus qu'il produit, sans compter la difficulté de trouver des matériaux pouvant résister à ce genre de température. En fait, il n'y en a pas.
Mais alors, comment les Allemands ont-ils réussi à en faire un ?
Alors, le réacteur expérimental Wendelstein 7X, situé au sein de l'Institut Max Planck à Greifswald, mesure 16 mètres de long, pèse plus de 500 tonnes et a demandé 19 ans et quasiment 715 millions d'euros pour sa construction. Il contient surtout 425 tonnes d'aimants supraconducteurs, et c'est là que réside la solution pour le matériau. À 1 million de degrés, la matière est dans un état que l'on appelle le plasma. Les atomes sont ionisés et donc chargés électriquement, et donc sensibles à des aimants. Le plasma est ainsi repoussé par ces aimants supraconducteurs et stabilisé dans une toute petite zone, dans le vide. Il chauffe donc plus vite, sans toucher ni faire fondre le réacteur. Pour chauffer le milligramme d'échantillon d'hélium, plus facile à fusionner que l'hydrogène, les chercheurs et ingénieurs ont utilisé un énorme laser pendant un dixième de seconde. Et l'expérience s'est déroulée comme prévu.
Ouais, j'imagine que la recherche sur une telle technologie doit être très importante, non ?
Ah oui, elle l'est. Plusieurs projets, certains concurrents, sont dans les starting blocks dans le monde entier. Allumer un réacteur en stabilisant la réaction est possible, et les Allemands ont coiffé au poteau le projet français ITER, qui visait lui aussi à le démontrer expérimentalement.
Ah, bon. Ces Allemands.
Alors, comme si c'était la première fois qu'ils nous coiffaient au poteau. Ouais. Quant au défi de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment, les Américains l'ont fait tout juste avec succès l'année dernière à la National Ignition Facility. Il y a donc encore beaucoup de travail et de recherche nécessaire, mais la fusion apparaît de plus en plus à portée de main aujourd'hui.
Alors merci Léo, on va maintenant passer aux éditos politiques et internationaux après un jingle. On commence avec l'édito politique. C'était un grand ouf de soulagement poussé dimanche lorsque les résultats des élections régionales sont tombés. Aucune région pour le Front National. Marine et Marion mises KO par des candidats du Parti des Républicains qui sont de vrais républicain dans l'âme. On sait en effet à quel point Xavier Bertrand ou Christian Estrosi sont des gens qui ont la République chevillée au corps, tellement chevillée qu'ils ne quittent plus ses fonctions depuis nombre d'années. Le plus drôle dans ces élections, en fait, ce sont peut-être les déclarations de ces deux vainqueurs. Xavier Bertrand a fait une véritable introspection, disant qu'il avait été confronté à la misère ces derniers mois en parcourant le Nord et la Picardie, et que cela l'avait changé. Ça a changé à jamais ma façon de faire de la politique. Ces 30 dernières années, la classe politique a failli. Il y a bien une faillite collective. J'ai fait partie de cette classe politique. Alors on est heureux de lire une telle introspection dans la bouche de ce monsieur, mais comme on ne sait pas vraiment où finit la sincérité et où commence le calcul, méfiance. Mais bon, rien ne vaut les dernières déclarations de Christian Estrosi. Avant le second tour, monsieur se posait en véritable résistant. Oui, oui. Un résistant, comme ceux de la Seconde Guerre mondiale, il a invoqué la figure de son père, un Italien naturalisé en 1938, qui a refusé le STO, le service du travail obligatoire, et qui a été arrêté par la Gestapo. Bon, d'accord, mais en attendant, ceux qui veulent vaincre le cancer de la cistanade, après leur slogan, ce sont les Xavier Bertrand, les Laurent Wauquiez et...
Alors au PS, comment va la vie ?
Bah, pendant ce temps-là, rue de Solferino, l'ambiance du 13 décembre était moins morne que le dimanche précédent. La gauche garde 5 régions, tandis que la droite en gagne 7, ce qui n'est finalement pas un mauvais score, surtout après les résultats du premier tour, où elle n'arrivait en tête que dans 3 régions. Pour autant, excepté en Bretagne, où le ministre de la Défense remporte une victoire par KO lui aussi avec 51% des voix, partout ailleurs, la gauche unie, donc l'EPS et ses alliés, l'emporte dans des triangulaires avec moins de 50%. Et c'est parfois très serré. En Bourgogne-Franche-Comté, la candidate socialiste Marie-Guite Dufay l'emporte sur la candidate FN Sophie Montel avec 34% contre 32%. Et puisqu'on parle de résultats serrés, que dire de ceux de l'Île-de-France ? Claude Bartolone, président socialiste de l'Assemblée nationale, a perdu de quelques dixièmes, à peine 60 000 voix d'écart avec Valérie Pécresse sur près de 4 millions de votants. Autant dire une goutte d'eau. Il a dû avoir un peu la rage, Claude Bartolone, si vous me permettez, mais heureusement, cela n'a pas eu de conséquences sur sa vie politique. Il a déposé son mandat de président de l'Assemblée dans les mains des députés PS, qui l'ont alors ovationné à l'Assemblée, confirmant ainsi son mandat, nous a dit Bruno Leroux, le patron des députés socialistes. Non, vraiment, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La gauche n'a pas subi la défaite annoncée il y a encore quelques semaines, la droite a remporté les élections et est redevenue républicaine, et l'abstention a baissé de 8% entre les deux tours, tandis que le Front National a perdu, les fascistes sont renvoyés encore une fois dans l'enfer de l'opposition.
Tu es bien caustique, Clément, aujourd'hui.
Oui, un peu, bon, parce qu'avec un taux de participation de 50% au premier tour et 58% au deuxième, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de quoi rire. Comme d'habitude, les Français ne se sont pas intéressés à ces élections intermédiaires. Alors on entend les explications des uns et des autres sur les causes de cette abstention. Des régions aux compétences illisibles, des candidats inconnus, et une autre raison, le snobisme. Oui, oui. Vous avez bien entendu, le snobisme, c'est ce que nous a dit Raphaël Antoven dans sa chronique « La morale de l'info » sur Europe 1 le 7 décembre. Alors cette chronique du 7 décembre est absolument révoltante. En 2 minutes top chrono, les abstentionnistes sont des fainéants, des ingrats, des gens orgueilleux et des gens qui ne seraient que des enfants gâtés. Alors à côté de cela, il y a de vrais journalistes qui mériteraient beaucoup plus l'appellation d'intellectuels que ce philosophe à deux balles et qui font un travail remarquable sur le sujet. Sur Mediapart, de nombreux articles ont été faits sur le terrain, dans les régions et dans des villes ou des quartiers où l'abstention est effectivement extrêmement forte. Et ce ne sont pas des snobs qui apparaissent ou des enfants gâtés, loin de là, ce sont des gens démunis, sans argent, sans moyens et qui ont la sale impression que quoi qu'ils fassent, on ne s'occupe pas d'eux. Allez donc leur dire de voter dans ces conditions.
Ouais, et en Rhône-Alpes Auvergne alors.
Ah, tu fais bien d'en parler. Dans notre région, c'est le très droitier Laurent Wauquiez qui a gagné et qui, de fait, conforte la stratégie de droitisation voulue par Nicolas Sarkozy. Parce qu'il a quand même gagné assez largement contre le rassemblement de la gauche. Et la mauvaise surprise, à mon sens, ne vient pas de la défaite socialiste, mais du mauvais score de la liste d'Union Écolo Front de Gauche au premier tour. Elle était créditée de 15% dans certains sondages il y a encore quelques mois. Elle n'en a obtenu que 6%. Et le PCF, qui faisait jeu à part, a obtenu 5%. En fait, le paysage politique de la région ressemble un petit peu au paysage national. Un PS rejeté, mais pour lequel on vote parce qu'on n'a pas d'autre choix. Une opposition de droite qui se radicalise. Et un FN à 25%. Tandis que la gauche, elle, est inaudible. Pour la suite, cela promet.
«
c'est maintenant l'heure de l'édito international. Samuel, je te cède la parole.
Merci Clément. Alors, avant toute chose, Clément, j'ai une question. Clément, tu suces pour un Marx ?
Et maintenant, la question co. La question in, c'est la fameuse question coquine.
Bon, tu n'es bien sûr pas obligé de répondre à cette question aussi indiscrète que grivoise et cavalière, non. Si je la pose, c'est surtout pour mettre le doigt sur une réalité remarquable. Et cette réalité, Clément, c'est l'acquisition par la figure de Karl Marx d'une valeur marchande. Au point, comme en témoigne la popularité de la question susmentionnée, qu'il serait aujourd'hui envisageable d'obtenir une gâterie en échange d'un modeste volume du manifeste du Parti communiste ou de la contribution à la critique de l'économie politique. Au point surtout que la visite de la tombe du plus grand penseur de l'histoire de l'humanité est devenue payante.
Oula, payante ? Et il faut payer cher ou...
Oui, oui, il faut bien payer pour obtenir le droit de se recueillir sur la tombe de notre maître à penser à tous, enterré au cimetière de Highgate à Londres, et débourser la modique somme de 4 livres sterling, soit 5,50 €. Bon, en dehors toutefois de la date du 15 mars, jour béni des capitalistes du monde entier, qui correspond à celui du trépas du penseur à la barbe.
D'accord, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle tout ça pour les marxistes ?
Bon, on peut envisager les choses sous divers angles. Parce qu'on pourrait dans un premier temps hurler au scandale en faisant le constat que le pourfendeur de l'économie de marché a été lui-même marchandisé, que le capitalisme vient le hanter et le narguer jusque dans le doux repos éternel de la mort. Et pour certains, il ne fait pas de doute que Marx doit être présentement en train de se retourner dans tous les sens dans cette tombe de Highgate à l'idée que ses disciples, faute de moyens, ne peuvent même plus venir admirer le buste de l'auteur du Capital dans un soupir d'espoir. À moi, bien sûr, d'appartenir à la classe bourgeoise exploitante et d'être un crypto-capitaliste qui se contente de lire cyniquement Marx pour les besoins de ses transactions financières et qui vient surtout s'assurer que le barbu ne ressuscite pas pour venir à nouveau ébranler l'ordre du monde. Scandale donc, surtout que, cruelle ironie, le buste en question porte l'inscription « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, notre prière du soir à tous ». Non vraiment, c'est a priori à pleurer. Figurez-vous ce pauvre Ben Glinyecki, militant marxiste anglais de 24 ans qui... interviewé par le Wall Street Journal, a déclaré avoir, par dépit, refusé de payer son ticket et préféré regarder la tombe de loin à travers la barrière. J'en ai les larmes aux yeux.
On en a tous les larmes aux yeux dans le studio. Et c'est vrai que ça paraît moyen vu d'ici, mais tu as parlé de différents angles quand même.
Oui, cessez temporairement de frapper du poing sur la table, chers auditeurs. J'ai de quoi vous consoler. Tâchons de rester lucides et de comprendre de quoi ce phénomène peut bien être le signe. Bon, ce geste apparemment abject traduit bien une marchandisation de Marx dont la figure acquiert, je l'ai dit, une valeur de plus en plus marchande. Mais ce phénomène traduit aussi des choses tout à fait réjouissantes pour nous autres marxistes.
Ah oui, lesquelles ?
Eh bien, cette acquisition d'une valeur marchande est en même temps la réacquisition d'une valeur symbolique de Marx, notamment après la crise de 2008. Il n'est que de constater que l'édition allemande du Capital a triplé ses ventes en un an, entre 2008 et 2009, ou de se rappeler des défilés à Wall Street au cri de « Marx avait raison » pour s'en apercevoir. Et si ce geste indécent de faire payer le recueillement sur une tombe en était le révélateur ultime ? Ne pourrait-ce pas être parce que les visiteurs se font trop nombreux que l'association qui gère le cimetière, les Amis du cimetière de Highgate, ont pris cette décision ? Le magazine Slate va en tout cas dans ce sens, nous révélant que depuis l'élection à la tête du Labour britannique du gauchiste Jeremy Corbyn, il y a un intérêt croissant pour le philosophe et que, en conséquence, les Amis du cimetière de Highgate s'attendent à une explosion du nombre de visites.
Ah, c'est très intéressant ça. Ça relativise tout de même l'impression première.
Et oui, camarades, les admirateurs s'apprêtent à déborder et envahir le cimetière qui, comme tout cimetière, a besoin d'entretien. Entretien que l'argent récolté par ce biais permettra. Peut-être Marx n'eut-il au fond pas vu tant de contradictions dans ce geste de redistribution du capital qui permet la récompense sous forme de salaire d'un labeur accompli par les personnes qui entretiennent le cimetière. Il faut d'ailleurs préciser que Marx avait lui-même choisi d'être enterré dans un cimetière privé et qu'il était donc potentiellement conscient que l'entretien des lieux nécessiterait des fonds privés. Alors, victoire définitive du capitalisme ou annonce d'une révolution populaire imminente ?
Mais dis-le-nous, dis-le-nous.
Mais pour ma part, quoique marxiste de la première heure, je reste avant tout un fervent militant d'extrême centre et je me garderai bien de me prononcer sur la question. Optant pour une attitude farouchement bayrouienne, je dirais que c'est à la fois plutôt bien et plutôt pas très bien. Nous pourrons bien sûr y revenir dans la discussion.
On y reviendra, camarade. Alors Samuel, je crois que tu voulais d'emblée réagir à la situation politique espagnole.
Ah oui, non, c'était juste pour... souligner, enfin revenir sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de parti populiste en Espagne qui perce, et je pense que on peut trouver une raison à ça, c'est que le parti populaire, donc pas populiste, mais voilà,
donc fait un peu dans le parti de Mariano Rajoy,
voilà, qui s'est pris cette droite tout à fait appréciable en fait hier. Fait dans le populisme beaucoup, et notamment je pense aux mesures sur l'avortement de l'année dernière ou il y a deux ans. Bon, ça ressemble beaucoup à un programme d'extrême droite, quoi.
Oui, parce qu'ils avaient voulu revenir très fortement sur,
ah,
sur
oui,
l'avortement.
C'était affreux. Et donc je pense qu'on peut peut-être trouver là l'explication, en plus du fait que dans ces pays méditerranéens, la Grèce, l'Espagne, c'est les partis de gauche qui récoltent un peu le mécontentement populaire.
Et puis justement dans ces pays méditerranéens, on l'a vu en Grèce, on le voit en Espagne, il y a une réaction populaire qui est plus vive que dans nos pays plus latins. On le voit avec le mouvement des indignés, on l'a vu avec le mouvement des indignés à la Puerta del Sol, c'était quand même assez vif et assez rapide au niveau de son organisation.
Faut dire que la situation dans ces pays-là est quand même beaucoup moins favorable que chez nous. Enfin, à l'origine, je pense que ça peut encourager des mouvements plus véhéments. Quand on compare, on n'est pas si mal que ça en France, finalement.
C'est vrai que notamment sur les jeunes, sont beaucoup qualifiés de génération perdue. Taux de chômage, je crois, atteint les 18%.
Ah oui, en Espagne, on est même au-dessus de 20.
Hein. Oui, le taux de chômage est assez délirant. Donc,
oui, on est à 22%, je crois, actuellement en Espagne. Donc,
Et peut-être aussi que la différence, c'est que ces pays ont un passé fasciste qui est assez récent. Oui. Voilà, l'Espagne, l'Italie, Portugal. Donc, on peut-être pas forcément envie de retenter l'expérience, tandis que nous, on a peut-être un petit peu oublié Vichy, j'ai l'impression. Et du coup, on se dit, allez, on va essayer.
Et bah, puisqu'on parle de passé fasciste, faisons une transition, une très mauvaise transition.
Wow, si.
C'est brutal, là. Alors,
ne sois pas si modeste, Clément.
Parlons des élections régionales. Alors, je voulais vous demander, les élections régionales, qu'est-ce que ça a donné chez vous, Léo?
Ah, chez moi?
Oui, d'où viens-tu?
Ah, moi, le centre. Enfin, la région pour laquelle on n'avait pas d'idée de nom, donc on l'a appelé le centre.
Ouais.
Ça a donné quoi chez moi? Ouais, apparemment, le FN était assez en force dans les campagnes, mais je crois qu'on est resté à gauche en plus.
Et pas de candidat aux bourdes intéressantes?
Bon, pour être honnête, j'ai pas spécialement suivi la chose.
Ouais. Moi, je crois savoir que c'était le FN au premier tour et que finalement, c'est le PS qui l'a emporté.
Oui. Ouais, c'était ça.
Sur le fil.
Alors, moi, je viens d'une région tout à fait propice au vote d'extrême droite, puisque je viens du Gard, qui était le premier département Front National pendant un petit moment.
Oui.
Voilà, où il y a une cohabitation de pieds noirs, rapatriés d'Algérie, voilà, c'est tout ça, fait un mélange explosif. Et le Monde a révélé que si donc le Languedoc-Roussillon, auquel appartient le Gard, n'avait pas fusionné avec Midi-Pyrénées, nous aurions été une région Front National. Et donc plus précisément, je viens de la préfecture du Gard qui est Nîmes, et le Monde a révélé que sur les 30 plus grandes villes de France, il n'y en a que deux où le FN ne fait plus que la moyenne régionale, et c'est Nîmes et Perpignan. Donc voilà, c'est... Mais bon, finalement, du coup, c'est le PS qui l'a emporté assez haut la main avec... Enfin, le PS, avec la fusion Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts,
qui
s'est maintenu au second tour avec 10% tout rond. Voilà.
Très bien. Maxime ?
Eh ben moi, je suis d'Île-de-France, donc comme tu as dit, Bartolone est sorti. Et puis, pour ce qui est de la campagne, je dois dire que je ne l'ai pas suivi d'extrêmement près. Ouais. J'ai lu les tracts, c'était très intéressant. On avait notamment une sorte de duel idéologique sur la question du RER, n'est-ce pas ? Qui a un enjeu majeur.
Ah bah oui, c'est vrai, en Île-de-France.
Bah oui. Et alors, quelles sont les promesses ? Eh bien, à gauche, on avait le RER moins cher, hein. Et à droite, on avait le RER avec les caméras. Je vous laisse choisir. Ça, c'était vraiment, une élection à fort contenu, comme vous le voyez.
Puisqu'on parle de l'Île-de-France, cette sortie de Claude Bartolone, quand même, quand il a attaqué Valérie Pécresse sur ses soi-disant propos sur la race blanche, c'était très malvenu. Qu'en pensez-vous ?
Bon, moi, ça me donne envie de reprendre un qualificatif de Frédéric Lordon qui qualifie le PS de droite complexée, par opposition à l'UMP et le Front National, qui est la droite décomplexée, comme on le sait bien, c'était un des grands chevaux de bataille de Copé. Non, c'est pas faux dans l'absolu, hein, voilà, c'est vrai que Morano appartient aux Républicains, mais je trouve ça un peu limite de la part de Bartolone de venir faire des leçons de morale comme ça, oui. Tout va, alors qu'ils ne sont pas en reste, voilà, les brouillés des propos de Val sur les Roms qui étaient bons. Enfin oui, c'est un peu énervant du coup. J'aurais compris que quelqu'un d'autre le dise, mais moi je pense qu'il ferait un peu mieux de fermer. Enfin, ils sont culottés quoi.
Et alors, pour vous faire rigoler un petit peu, moi en Normandie, c'est donc Hervé Morin qui est passé avec 6000 voix d'avance sur son rival socialiste et l'Union de la gauche. Et ce qui est très drôle, c'est qu'Hervé Morin en Normandie a mené une campagne extrêmement mauvaise. Ce petit-fils d'agriculteur normand, lorsqu'on lui a demandé de placer les grandes villes de Normandie sur une carte, a péniblement placé Évreux, Le Havre et Rouen. Et bah, Caen est passé à la trappe. Donc la vidéo est en ligne sur internet. Je vous invite à aller la voir, c'est assez éloquent.
Non, oui, donc par rapport à tout ce, au sujet quoi, sur les élections régionales, c'est vrai que la chronique de Enthoven, j'en avais pas du tout eu vent, mais elle est quand même hallucinante. Quoi. Et que ce soit surtout le fait que ce soit lui qui vienne parler d'enfants gâtés, c'est quand même assez gros. Quoi, parce que bon. Il est quand même assez représentatif de ça, quoi.
Oui, et puis dans la chronique, il est extrêmement violent. C'est-à-dire que sa chronique s'appelle, elle est toujours en ligne, hein, Abstention, piège à con. Et il dit, les abstentionnistes, mais on leur a toujours parlé gentiment. On leur a toujours fait la danse du ventre, en gros, pour essayer de les amadouer. Mais alors que ce ne sont que des enfants gâtés, des feignants qui négligent le droit pour lequel d'autres sont battus. C'est extrêmement violent.
C'est n'importe quoi. Non, mais ce speech, il consiste à dire, oh, mais il y a des gens qui sont morts pour obtenir le droit de vote. Quand vous votez pas, vous tuez un bébé africain. Mais c'est n'importe quoi. Enfin,
oui, c'est pas ça qui responsabilise des électeurs.
Oui, non, pas du tout. Façon. Et puis, pourquoi les électeurs, voilà, ils sont complètement désabusés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est? Puis que ce soit Enthoven qui vienne parler, franchement, mais c'est tellement énorme, quoi.
Il y a aussi, mais ça, c'est franco-français, le fait que le bulletin blanc ne soit toujours pas reconnu.
Oui.
Et donc, qu'on soit obligé de choisir à chaque fois le moins pire.
Le moins pire ou le pire, hein.
Oui. Enfin, c'est vrai que des fois, le moins pire, il n'y a pas beaucoup de différence avec le pire. Et c'est vrai que, bon, très, très honnêtement, sinon, ça. Disons que ça ne m'encourage pas à voter, moi, personnellement.
Parce que, bon. Je ne sais pas dans quelle mesure des gens qui voteraient blanc, si c'était comptabilisé, ne vont pas aller voter Front National pour remuer un peu le sac de patates, quoi. Parce que, c'est.
Bah, maintenant, il semblerait quand même que le vote national ne soit plus seulement un vote de protestation, comme on l'a dit pendant des années, mais un vote d'adhésion, tout simplement, parce que le discours de Marine Le Pen, c'est « Vous souffrez, je vais vous protéger de l'Europe, des immigrants
».
Un discours auquel les gens qui sont démunis adhèrent.
Non, puis après, il faut voir aussi le programme de Marine Le Pen. Hein. C'est avec une certaine surprise que je me suis rendu compte que dans plusieurs programmes de région du FN, il y avait notamment la proposition d'augmenter le budget de l'enseignement et de la recherche.
Oui, mais
le FN propose ça.
C'est la patte de M. Philippot, hein, ce traître opportuniste qui a gauchisé le parti comme jamais. Le programme économique du Front National va plus loin que celui du Front de Gauche.
Oui.
Alors, rappelons tout de même, il y a 2-3 ans, lors de la mobilisation de l'ensemble des chercheurs, qui s'étaient mobilisés dans l'ensemble de la France, ils avaient eu droit, donc, de la part du ministère de la Recherche, donc du PS, sous le PS, à un « Nous resterons fermes ».
Une réaction, Maxime, à la chronique de Léo et à cette découverte de la fusion.
Oui, bah effectivement, c'est vraiment un projet scientifique et technique qui fait vraiment rêver, parce que c'est cette espèce de perspective, voilà, l'énergie quasiment illimitée, la force du soleil, enfin des trucs qui sont vraiment délirants. Après, ce qu'on peut toujours se demander avec ce type de projet, pour l'instant c'est dans les sphères scientifiques, donc ça va, c'est quand même des gros programmes, hein. Je crois qu'ITER, il brasse plusieurs milliards d'euros.
C'est vraiment des très très gros programmes. Hein, ouais.
Mais je me demande en fait comment est-ce qu'on peut passer de l'étape scientifique comme ça à l'étape technique où on exploite vraiment cette énergie. Enfin, ça pose vraiment plein de questions sur la distribution, les coûts.
Plein de questions industrielles, en fait.
Tout à fait, ouais, les propriétaires aussi, parce que bon, le projet ITER, là, je connais pas le projet allemand, mais le projet ITER, il y a plein de nations qui sont engagées dedans. Effectivement, ça se passe en France, dans le sud, à Cadarache, mais du coup, qu'est-ce qui se passe après? Et si on lance une exploitation, qui est propriétaire? Enfin, ça pose vraiment plein de questions. Qui sont vraiment de gros défis. Non, j'espère qu'on aura à se poser ces questions à un moment.
Puis il faut aussi, bon, mon côté pessimiste qui revient encore.
Ah.
Mais c'est vrai que bon, si ce projet arrive à prendre forme, si on arrive à faire un réacteur à fusion, le prix de l'énergie va dégringoler. Mm. Et donc les entreprises énergétiques...
Avec des conséquences économiques.
Voilà, entreprises énergétiques ne vont pas vraiment voir ça d'un
bon œil. Mais bien sûr, on peut être cynique et se demander finalement qui a intérêt aujourd'hui à ce que la fusion nucléaire fonctionne.
Qui a intérêt à ce que l'énergie soit peu chère.
Oui, bien sûr.
Nous, oui, mais est-ce que dans les entreprises ou autres qui peuvent faire du lobbying pour torpiller le projet, ça peut être le... Est-ce qu'elles y ont clairement pas intérêt, à moins de se reconvertir dans ce domaine-là et de...
Encore faut-il que ce soit rentable pour l'instant.
Oui, pour l'instant, ça l'est pas trop. Mais bon, non, c'est un projet à suivre. Hein.
C'est vraiment, un projet.
Avoir un soleil portable presque pour faire de l'énergie, ça fait rêver.
Ça me fait penser à Spider-Man 2 avec Tobey Maguire et le Docteur Octopus qui puissance du soleil dans la paume de ma main.
Je pense que c'est moins spectaculaire à voir.
Oh non, mais allez voir Star Wars.
Pas de spoil, Léo, pas de spoil.
Je ne spoile pas, je vous encourage à aller le voir.
Eh bien, sur cette note et sur cet encouragement, Léo, merci. Il est temps de conclure ce numéro, un numéro un petit peu spécial, puisque nous ne sommes pas au complet, et vous ne l'entendrez pas, chers auditeurs, mais nous l'avons enregistré dans des conditions un petit peu spéciales. Vous entendrez peut-être...
La magie du montage.
Vous entendrez peut-être un bêtisier d'ici quelques semaines, nous verrons bien. En tout cas, on pense fort à Jérémy et à Quentin qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui pour l'enregistrement de ce numéro. Merci à vous, Maxime, Samuel et Léo, pour vos billets, et toujours fort intéressant, et pour cette discussion nourrie. On se retrouve en 2016.
L'année prochaine.
Eh oui.
Bonne fête.
Oui, j'y viens. On se retrouve en 2016 au complet pour le prochain numéro. Je l'espère très vivement. Et puis, bonne fête de fin d'année, chers auditeurs. À bientôt sur Transistor. Et bonne fête à vous aussi autour de la table.
Bonne fête.